Fréquence Première,
Véronique Thiberghien.
Il y a Scott Sou avec nous. Bonjour Elios.
Bonjour.
Caroline Le Cire avec nous aussi.
Bonjour.
Bonjour. Tous les deux fondateurs de l'ASBL Émergence, que l'on peut retrouver émergence.org sur Internet, bien sûr. Et venu nous parler de cet ouvrage collectif Transmettre, auquel ont participé Céline Alvarez, Christophe André, Catherine Guéguen, Frédéric Lenoir, Frédéric Lopez, Mathieu Ricard et vous-même. On a reçu tout le monde. Sauf Frédéric Lopez.
Oui, une prochaine fois.
Toujours à l'étranger, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On peut pas l'accrocher non plus. Un livre sur la transmission. Alors, c'est pas banal du tout, et c'est tellement important, Elios Koutsou.
Oui. Je pense que c'est au cœur de nos vies, comme vous l'avez dit, de toutes les dimensions de la vie. Cette question qui est un peu cette question de recevoir et de donner.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a reçu ? Comment l'a-t-on reçu ? Et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de redonner ? Et comment va-t-on le redonner ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses évidentes dans la transmission. Par exemple, on peut transmettre un patrimoine, une maison pour ceux qui en ont. On peut aussi transmettre une couleur au niveau des yeux ou une taille. Regardez, la taille que j'ai n'est pas très grande, mais je l'ai héritée aussi. Et ça, c'est le plus simple visible. Et puis, il y a tout ce qui est invisible dans notre manière d'entrer en relation avec nous-mêmes et avec le monde. C'est ce qui rend la transmission tellement intéressante, mais parfois aussi mystérieuse et compliquée. C'est que ce n'est pas la même chose que de transmettre... simplement un objet d'une personne à une autre.
Mais cette transmission, elle est constante tout au long de notre vie. Et pourtant, il me semble qu'on ne se pose véritablement la question de la transmission qu'à partir d'un certain âge, quand nous sommes adultes, au moment d'un événement particulier dans nos vies, d'un décès par exemple, ou de l'arrivée d'un enfant. Et on se pose cette question à ce moment-là, mais elle ne va pas nous poursuivre non plus. Ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent.
Peut-être pas toujours consciemment, mais vous avez raison. Je crois que la question, c'est dans ce monde de communication, où on communique tout le temps. La communication, c'est un peu comme le passage d'une information d'un endroit à un autre,
oui.
D'ici aux personnes qui nous écoutent. Alors que la transmission, c'est la question du sens, c'est la question du contenu. C'est vrai. Et donc, c'est souvent dans les moments de vie où on est ramené nous-mêmes au sens. La fin de la vie, par exemple, nous ramène à l'essentiel, qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est vraiment important. Et s'il y a une chose importante, c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager aux autres.
Pourquoi c'est important la transmission, d'après vous, Caroline Le Cire ?
Mais je pense que c'est important parce qu'on peut vraiment... Je dois me reculer un peu.
Mettre en face du micro parce que sinon on vous...
Oui, en fait, on a choisi dans le livre de parler de toutes les transmissions positives, mais il y a aussi des choses qui peuvent être plus difficiles, qu'on peut hériter. Et le fait d'être conscient de ce qui se trame chez nous peut nous permettre de transformer aussi. Il y a toute cette résilience qui est possible quand on est conscient... De toute notre aventure humaine.
La transmission, les auditeurs en parlent aussi, et j'avais un premier témoignage qui nous était arrivé, celui d'une personne de Carla qui nous disait que c'est sa grand-mère qui lui avait transmis beaucoup, pas ses parents, et qu'elle se rendait compte qu'elle transmettait beaucoup à ses petits-enfants, mais qu'elle n'avait pas réussi à transmettre à ses enfants. Comme s'il y avait des sauts de génération dans la transmission. Et elle se demandait si c'était courant, finalement.
Alors évidemment, si elle le dit, c'est que c'est vrai. entre une théorie aussi belle qu'elle soit et un fait, c'est toujours le fait qui gagne, évidemment. Après, ce qu'on peut dire sur la transmission, plusieurs choses auxquelles me fait penser ce que dit cette personne, c'est que, à nouveau, il y a ceux dont on se rend compte et ceux qui passent à notre insu. Et très certainement qu'elle a transmis beaucoup de choses à ses enfants. Peut-être pas ce dont elle avait envie. Peut-être qu'elle n'a pas pris conscience au moment même. Et par exemple, l'exemple, dans ma vie, j'ai reçu beaucoup de choses dont je ne me suis pas rendu compte au moment où c'est venu. Des mains tendues dont je n'ai pris conscience que très longtemps après, avec le recul. Et c'est après, en regardant en arrière, que je me rends compte, je me dis, tiens, à ce moment-là, tiens, c'est extraordinaire. Et beaucoup des cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, je ne les ai pas vus au moment où ils ont été déposés dans mes mains. Je ne les ai vus que par la suite. Et peut-être que les enfants de Carla, ce sera par la suite. Et en même temps, pourquoi que nos petits-enfants, peut-être, et nos grands-parents, c'est qu'il y a une forme de distance, peut-être, différente qui se crée par rapport aux petits-enfants. Peut-être qu'on est... Moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas de petit enfant. Notre fille est très jeune, elle a 3 ans et demi.
Donc peut-être que,
si elle a un enfant un jour, c'est que peut-être qu'il y a une distance différente par rapport à un petit enfant, davantage d'espace, et donc on se permet davantage certaines choses, qu'on est aussi plus présent, il y a plus d'espace, et donc on voit mieux tout ce qui se joue là-dedans et tout ce qu'on peut donner, peut-être.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de transmission consciente et de transmission inconsciente, des choses qu'on voudrait effectivement transmettre, et puis il y a ce qu'on n'imagine pas que l'on transmet comme dans nos actes, dans notre langage non-verbal. On parle beaucoup évidemment avec Catherine Guéguen et avec Céline Alvarez aussi des enfants et des tout-petits-enfants et des choses qu'on leur transmet parfois sans avoir l'idée même qu'on est en train de faire de cette...
Oui, tout à fait, c'est de ce dont on parle, ce hiatus entre ce qu'on veut transmettre, le message, les valeurs, et puis ce qu'on incarne, nous.
Oui.
Et ça nécessite, je pense, du coup, ce recul et cette présence, au fond, sur comment est-ce qu'on vit au quotidien. On peut avoir des belles théories, et puis... donc c'est ça qui est vraiment important. Il y a une phrase d'Edelmax, qui n'est pas auteur, mais qui était présent en journée émergence, qui dit « En prêchant le respect à un enfant, on ne lui apprend pas le respect, on lui apprend à prêcher ». Et donc, c'est pas, bon, nos mots sont importants, bien sûr, le langage qu'on va utiliser, mais c'est aussi comment nous, on va se comporter avec l'enfant, le regarder, lui donner de la place.
Un exemple qui, pour moi, est frappant dans ce sens-là, c'est toutes ces questions de gentillesse et de politesse.
Oui.
Et on peut... Et c'est des choses qu'on a déjà entendues. Moi, j'ai entendu, sans critiquer, ça pourrait m'arriver aussi, quelqu'un qui disait à un enfant, « Ça suffit maintenant, avec un mot extrêmement grossier, tu vas commencer à être poli. » Alors on peut se demander ce que le... Oui, qui ne se rend pas compte, évidemment,
oui,
après.
Oui, oui.
Et même si on va un peu plus loin que ça, même en proposant à un enfant de dire toujours « merci, s'il te plaît », on lui apprend quelque part la politesse, mais on ne lui apprend pas la gratitude. Mm-hmm. Et ça nous montre que la gratitude, le seul moyen de l'apprendre à quelqu'un, c'est d'avoir de la gratitude pour nous-mêmes. Mm. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes reconnaissants des bienfaits de la vie et qu'on le vit avec un enfant qu'il va l'être. On peut lui dire 10 fois qu'il faut de la gratitude, ça ne sert à rien. On peut faire pire. Proposer à un enfant d'être spontané.
Oui.
Quel sens est-ce que ça a ? Et donc, je pense que dans la transmission, nous sommes tous et toutes des constructeurs de contexte. Nous participons au contexte de la vie, le contexte de la famille, le contexte du couple, et c'est par notre attention au contexte et notre manière de vivre dans ce contexte qu'on va pouvoir mettre en place un environnement dans lequel la transmission est possible. On ne peut pas forcer les transmissions positives. Bon, pour les traumatismes, malheureusement, ça se fait beaucoup plus rapidement.
Et parfois de manière plus indélébile, plus profonde aussi, comme des traces, ça laisse de vraies traces parfois.
Oui, tout comme on peut d'un seul geste arracher une fleur,
ouais.
Et il lui faudra très longtemps pour pousser. Donc voilà, je pense que c'est un mouvement naturel, il nous faut, mais ça ne doit pas occulter qu'il y a tellement de résilience et de potentialité chez chacun, chacune d'entre nous, qui nous permettent dans la vie tout le temps d'apprendre et de donner.
Vous venez de parler du fait de dire merci, ça a fait réagir Anaïs qui nous a envoyé un message par SMS au 6031. Elle parle du fait de s'excuser, elle, chez les enfants. Elle dit, les enfants, on leur apprend à s'excuser lorsqu'ils ont fait une bêtise, mais ils ne comprennent pas du tout le sens de ces excuses. Et vous finissez, nous dit-elle, par vous énerver parce que ces enfants s'excusent dès qu'ils ont fait une bêtise, mais ce n'est pas ça finalement que vous attendez eux.
C'est rigolo avec notre fils, ce qui est marrant, c'est que on a pris l'habitude de s'excuser quand on a eu un comportement. Et alors, parfois, je lui dis, Néphélie, est-ce que tu me pardonnes ? Et elle me dit, pardon, maman. Et je lui dis, non, c'est moi qui... Donc c'est rigolo, effectivement.
C'est très juste. Et en même temps, au même moment, nos comportements vont avoir un impact. Je me souviens d'un petit épisode où, voilà, on était assez pressés et on cherchait la veste et je lui avais dit, écoute, ta veste est à tel endroit. Elle me dit non, elle est ailleurs. Et en effet, elle avait raison. Un enfant de 3 ans et demi. Et je lui dis, écoute, voilà, tu as raison. Cette fois-ci, c'est moi qui n'avais pas raison. Et elle a bien retenu ça. Et un autre jour, dans une autre circonstance où elle s'est trompée, elle m'a dit, papa, cette fois-ci, c'est moi qui n'avais pas raison. Et puis elle m'a regardé, elle me dit, parfois on a raison. Parfois, on n'a pas raison. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas passer par des moments difficiles, mais le fait de pouvoir se rendre compte, c'est vrai, parfois on a raison, parfois on n'a pas raison, c'est essentiel et énorme dans la vie. Moi, c'est encore très compliqué pour moi. Moi, c'est surtout parfois j'ai raison. et parfois, je n'ai pas raison, mais je n'ai pas envie de le reconnaître. Cette grande simplicité avec laquelle elle a pu dire, parfois on a raison, parfois on n'a pas raison. Cette simplicité de l'enfance.
Petite séance de psychanalyse avec Ilios Kotsou dans cette émission. On parle de transmettre, paru chez l'Iconoclaste. Pardon. On va revenir évidemment sur l'ensemble des auteurs qui participent à cet ouvrage collectif. Reprendre également les messages de nos auditeurs comme celui d'Olivier. La seule chose utile, voire vitale à transmettre, c'est l'amour, la tendresse. Le restant, c'est du flan. Quel orgueil de croire qu'on peut se permettre de réfléchir ou de philosophie pour autrui. L'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que soi-même, nous dit Olivier. travailler. Et puis, dans les réactions, celle d'Anne-Marie, lorsque mon grand-père a confié un paquet Kraft dans lequel j'ai trouvé la collection de la Libre Belgique clandestine de 14-18, avec aussi la nécrologie de ses deux jeunes frères adolescents morts en tentant de rejoindre la résistance en Hollande, j'ai compris pourquoi il prenait tant de plaisir à me faire connaître, ma petite main dans la sienne, le moindre arbre remarquable ou bizarre de la forêt de Soignes depuis ma tendre enfance. Il la connaissait tellement pour l'avoir parcourue durant ses années noires pour sauver la liberté d'expression. Il y avait été déterré ce paquet témoin silencieux caché dans le creux d'un arbre depuis lors, nous dit Anne-Marie.
Tendance première.
Transmettre chez je ne vais pas y arriver, ça va encore continuer durer. L'iconoclaste pour la maison d'édition, transmettre ce que nous nous apportons les uns les autres, avec différents auteurs sur lesquels on va revenir. Vous vouliez dire un mot sur les messages de nos auditeurs ?
Oui, Caroline. Le message là de la...
Anne-Marie, je pense.
Voilà, Anne-Marie, dont le grand-père avait aidé... Pendant la guerre, on a une étude dont on parle dans le livre qui dit que effectivement, exactement comme son témoignage, qui est le plus éclairant que toutes les études, mais bon quand même, pour faire le lien avec le livre, qui montre que les enfants dont les parents ont justement commis des actes comme ça exemplaires sont vraiment, enfin la recherche le montre, sont plus enclins après dans leur vie à incarner aussi ces valeurs. On prend l'exemple d'enfants dont les parents donnent leur sang, par exemple, qui seront plus enclins à le faire.
Oui.
Ou des Allemands qui avaient sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs parents avaient moins entendu de discours stéréotypés négativement, etc.
Donc il y a une importance de ce lien dans ce qu'on disait.
L'auditeur qui disait l'amour et la tendresse, c'est la seule chose qu'on transmet, le reste c'est du flan. Je suis bien d'accord. Alors, cette métaphore très jolie de la lanterne, je ne suis pas sûr que la lanterne s'éclaire qu'elle-même. Au contraire, ce que je dirais, c'est que nous sommes la lanterne. L'erreur, c'est de penser que la lanterne, c'est ce que l'on dit. Bien d'accord avec lui, mais nous sommes une lanterne et cette lanterne, elle éclaire bien au-delà de...
Nous sommes des lunes et pas des soleils.
Oh, dites
par, voilà. Des soleils et par...
Mais c'est bien au-delà de nous-mêmes, puisque tous ces exemples montrent que nous sommes influencés, impactés, transformés par ce que d'autres nous ont donné.
Christine, je suis biographe depuis 2004, un métier méconnu. Je transmets aux familles l'histoire de vie des grands-parents avec une écoute et un accompagnement aux personnes âgées dans un premier temps, avec l'édition d'un livre dans un second temps. Je transmets leur joie et peine de vie, leur parcours professionnel de guerre parfois. Beaucoup de personnes âgées qui se sentent un peu abandonnées dans les homes ont plein d'histoires à raconter, à transmettre pour les familles, pour eux aussi. Ça leur fait beaucoup de bien. Il y a un vrai besoin vital de transmettre.
Oui, je pense vraiment. Et ce témoignage me fait aussi penser à une partie du livre qui est à la fin du livre. On a cité plein d'associations. Et de...
Comme celle de Pierre Rabhi,
voilà.
Par exemple.
Mais alors du coup, il y a aussi tout l'aspect intergénérationnel. Et il y a des associations qui font vraiment le lien entre les générations. C'est vraiment quelque chose qui manque à notre époque. Justement, pour pouvoir travailler avec cette mémoire des anciens. Il y a quelques références d'associations en Belgique, notamment, qui font ce travail.
Oui, Elias.
Je vais juste abonder dans le sens en disant que la transmission, comme c'est un vecteur de sens, elle donne du sens certainement à celui qui transmet et bien sûr évidemment aussi à celui qui reçoit. Et dans cette idée-là, les personnes qui prennent de l'âge sont justement avec encore tellement plus de choses à transmettre. Oui. Et parfois dans nos sociétés, on a tendance à l'oublier un petit peu. Alors je caricature horriblement dans ce que je vais dire, mais on aurait plutôt tendance à parquer parfois des personnes plus âgées ensemble dans des homes plutôt qu'à les mettre dans une place publique où elles pourraient justement transmettre tellement aux plus jeunes, entre elles, aux autres, et ainsi de suite. Et dans les sociétés dites traditionnelles, avec tous les défauts, les problèmes, ce n'est pas pour idéaliser, il y avait pourtant cette place, ce qui est intéressant, donnée aux aînés, donnée aux anciens. Par exemple, dans un cas de conflit, on pouvait reconnaître, comme on le sait aujourd'hui, que quelqu'un de plus âgé a souvent plus d'intelligence dite émotionnelle, plus de capacité de recul. Et donc, lorsqu'on était en conflit, on allait écouter la parole de quelqu'un, de quelqu'une, qui pouvait nous éclairer par son expérience. Je pense que ce sont des choses qu'il est important de retrouver.
De se replonger dans tout cela. Marlène a réagi aussi. Mes parents, quand je lui posais la question de savoir qui vous a transmis, mes parents, nous dit-elle, c'est inouï ce qu'ils m'ont transmis. L'exemple du travail bien fait, l'intérêt pour les autres, leur amour inconditionnel, la valeur et le respect de l'argent, l'amour aussi pour les animaux. Eux qui sont décédés à l'âge de 54 ans, tous les deux, d'infarctus du myocarde. Quelle fidélité, précise Marlène. Ils m'ont transmis un bon cœur, au propre évidemment, mais aussi au figuré. Et j'ai presque 70 ans. Malgré le drame de les avoir perdus à l'âge de 10 et de 15 ans, ils m'ont transmis la joie de vivre. Je suis la plus heureuse de les avoir connus et aimés. Et merci maman pour la recette des tartes extraordinaires, nous dit Marlène.
Touchant, hein.
Comme quoi, il faut pas, ça n'attend pas la valeur des années, entre guillemets, hein, la transmission. 10 et 15 années passées aux côtés de ses parents et énormément de richesses transmises. Est-ce que cette situation de décès n'a pas aussi... Je parlais des situations extraordinaires, des situations exceptionnelles. Parfois, un décès, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un moment de vie terriblement compliqué ou difficile à vivre. Un événement, une catastrophe que l'on connaît. Est-ce que dans ces moments-là, on n'est pas plus rappelé justement à cette idée de transmission, comme s'il y avait une urgence.
Oui, bien sûr. Je pense que dans toutes les situations de vie qui nous mettent en contact de la mort, par exemple, on est à nouveau rappelé l'essentiel. Et c'est important de se rendre compte que dans ces situations-là, bien sûr qu'au niveau individuel, être rappelé la transmission permet de la mettre en avant. Mais au niveau collectif, dans ces situations, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est que bien souvent, c'est le meilleur de l'être humain qui s'y révèle. Mmh. Et donc, à nouveau un exemple, hein, on en parle beaucoup. Hein. On reproche souvent aux médias de ne parler que des choses négatives. Eh bien, en Belgique et à Bruxelles, je pense qu'on a l'exemple du contraire aujourd'hui avec la plateforme citoyenne pour les réfugiés dont on parle partout. Mais quel bel exemple de transmission quelque part aussi. Cette transmission qui va dans tous les sens. Donc on est bien, comme vous le dites, face à une situation exceptionnelle, difficile, mais dans laquelle va se révéler cette générosité, cette capacité de transmission de tout un chacun. Et donc, il n'y a pas des gens exceptionnels dans le sens différent qui transmettent. C'est de très nombreux hommes, femmes, enfants, oui, de toute génération, de toutes appartenances sociales, de tout milieu, de toute religion, quelque part, ou sans religion, qui se mettent ensemble à tendre la main. Et dans ces situations-là, on reçoit autant des personnes que l'on accueille et à qui on donne peut-être, entre guillemets, quelque chose. Donc cette transmission-là, elle se fait dans tous les sens.
Céline Alvarez, connue pour son travail sur la pédagogie auprès des enfants, une manière d'enseigner avec amour de la transmission aussi, respect de la transmission, respect de l'enfant et surtout favoriser sa créativité. Christophe André, pour moi c'est le bonheur. Christophe André, hein, c'est le monsieur bonheur. C'est l'un des premiers à avoir parlé du bonheur comme étant l'une des choses essentielles et surtout de nous avoir expliqué de manière très simple que si l'on voulait y parvenir, il y avait vraiment moyen, même quand on était dans des situations très catastrophiques. Catherine Guéguen, elle a travaillé sur la petite enfance et sur ses liens. Et elle parle ici dans ce livre des liens qui se construisent dans la transmission avec ses nouveau-nés. Frédéric Lenoir, qui travaille aussi dans la pédagogie, mais surtout dans la méditation, et qui a réussi à allier toutes les forces et les richesses qu'il a dégagées de ce travail de pédagogie avec les enfants et de la méditation pour favoriser dans des milieux qui ne le sont pas la transmission, l'éducation et la richesse de l'enseignement. Il y a également Frédéric Lopez, qu'on ne présente plus, qui voyage à travers le monde, qui est aussi quelqu'un qui est une espèce d'éponge à bonheur quelque part, et qui arrive à rencontrer à travers le monde des personnes et des personnalités qui lui donnent et avec lesquelles il sait recevoir aussi. Et puis Mathieu Ricard pour la spiritualité. Pour moi, Mathieu Ricard, c'est l'empathie, c'est la méditation aussi. Et c'est une certaine forme de reconnaissance et de travail sur la vie de manière générale. Comment avez-vous rassemblé tous ces auteurs ?
Alors, ils sont venus à une de nos conférences émergences qui est annuelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant, là aussi, c'est un vecteur de transmission, puisque dans ces conférences, on va prendre un thème, la transmission ou le temps, et on va avoir des regards très différents croisés d'hommes et de femmes qui ont toutes ou alors une expérience de vie comme Frédéric Lopez, ou alors une forme d'expertise, ou les deux. Et donc, en regardant cet élément de tous ces regards multiples, va se dégager quelque chose. Et les milliers de personnes qui sont là, eh bien, c'est une transmission qui se fait aussi entre elles. Donc, c'est un moment assez interactif. Et par la suite, parfois, ces personnes-là ont envie de poursuivre l'aventure. Et ensemble, comme on l'a fait déjà, c'est la troisième fois, on en fait un livre. Mmh. Et donc, on croise ces regards, on en fait un livre, mais on en fait vraiment un objet. C'est pas un art, c'est pas un livre de congrès, non, comme ça peut se faire. Donc, c'est vraiment un livre où chacun y a mis du cœur, où chacun a réfléchi, où chacun met, par exemple, parle de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a envie de transmettre. Et ça montre aussi que c'est souvent plus ouvert et moins linéaire que ce qu'on imagine. Dans le cas de Frédéric Lopez, que tout le monde connaît, hein, son travail extraordinaire et pas seulement de rendez-vous en terre inconnue, il nous montre bien dans son chapitre que la transmission va dans tous les sens. C'est-à-dire que, bien évidemment, on reçoit tellement. Hein, il nous donne un exemple d'une transmission forte pour lui qui est Gambat, je pense. Gambat, c'est en Mongolie. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise, et qui lui dit, voilà, il part en forêt avec son renne et sa théière, et il le regarde et lui dit, mais de quoi a-t-on besoin d'autre? Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Et donc, cette capacité à retrouver l'essentiel et à savourer pleinement les instants de notre vie, parce que c'est maintenant, ce que va nous dire aussi Christophe et d'autres. Et en même temps, il nous partage autre chose, Frédéric, comment quelqu'un d'autre, là-bas, Cissé, qui a 43 ans, apprend à lire, et se rend compte, dans la déclaration des droits de l'homme et de l'enfant, d'une chose terrible, qui est qu'il a marié une de ses filles toute jeune, et décide de ne pas faire la même chose avec la deuxième. Et en se faisant, il va s'opposer à toute la culture dans laquelle il est, ce qui va être très difficile, mais il va, par son exemple de courage, transformer la société dans laquelle il est, nous donner un exemple aussi, mais ça montre, tiens, il reçoit quelque chose, cette tradition, par exemple, qu'on peut appeler des droits de l'homme, et en même temps, il a tellement à nous donner. Et donc, plutôt qu'une vision très très binaire, la bonne chose, qui serait d'un bon côté, la bonne culture, quelle que soit la direction, c'est il y a tellement de choses à se donner et à s'apprendre de partout. Moi, j'adore. Et Frédéric Lopez, pour ça, ce qui est extraordinaire, je pense, c'est que dans son émission, il n'y a pas de morale. C'est par la vie, tout ce qu'il va vivre avec les personnes. Et c'est là qu'est le message, à nouveau, le message de l'expérience.
Tendance première, Véronique Thiberguien.
Robert nous dit « Certes, mes parents m'ont beaucoup transmis, mais je pense avec le recul que celui qui m'a encore plus transmis de valeur, eh bien, c'était mon maître professionnel, celui qui m'a tout appris dans l'ébénisterie, celui qui m'a appris non seulement l'amour du bois, mais tout ce que cela sous-entendait dans la société d'aujourd'hui. Et lorsque je travaille à une pièce de bois, pardon. Aujourd'hui, c'est à lui que je pense et j'espère transmettre à mes enfants les valeurs qu'il y avait derrière son discours qui semblait parfois trop professionnel et pourtant qui était si riche. Alors, c'est vrai que vous pas toujours les parents, quoi.
Non, c'est vrai. Et c'est très beau. Ça me fait penser aussi à un texte. En fait, dans le livre, il y a aussi 9 textes sur la transmission.
Oui.
Et il y a une lettre que Albert Camus avait écrite à son maître d'école après avoir reçu le prix Nobel. Donc, c'est aussi ça, cette reconnaissance qu'on peut avoir envers l'enseignant. Parce qu'effectivement, bah, Céline le souligne aussi, l'école c'est vraiment un lieu important et qui parfois voilà, n'a pas toutes les conditions ne sont pas réunies en fait, pour que l'apprentissage, qui pourtant est une fonction naturelle chez l'être humain, chez l'enfant, qui est câblé pour apprendre, comme dit Céline, comme les conditions ne sont pas réunies, ça se passe moins bien, c'est difficile pour les enseignants, difficile pour les enfants, pour les parents. Et donc comment faire aussi pour que ce lieu tellement important puisse remplir ses missions et que ça se passe dans la légèreté, dans la joie
Edith, j'ai pu dire à ma maman à la fin de sa vie qu'elle m'avait tout appris. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Je ne vois pas ce que je t'ai appris. En fait, sa transmission n'est pas passée par des discours, mais par son exemple, son comportement, son courage face à l'adversité, bref, par ses actions. Elle n'était donc pas consciente de tout ce qu'elle m'a appris, nous dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on transmet aux autres.
Il y a des moments où on prend peut-être plus conscience, de fait.
C'est ce que nous dit aussi Mathieu Ricard dans son chapitre, quand il nous dit « le messager est le message », en fait.
Oui,
c'est ce qu'il a touché et marqué dans son contact d'années avec des maîtres spirituels. En tout cas, ce dont il parle, c'est leur grande cohérence. Et c'est au fond ce qu'ils transmettaient par leur manière d'être. Un peu comme notre ébéniste avec son élève. En fait, c'est dans sa manière d'être. Son discours, parfois trop professionnel, dit-il, mais dans sa manière d'aimer le bois et certainement d'aimer son élève, il a transmis tellement plus que les mots qu'il a pu utiliser.
On a une personne qui réagit au témoignage de Carla. Alors, pour rappel, petit retour en arrière, Carla disait qu'elle avait reçu de sa grand-mère et qu'elle avait transmis à ses petits-enfants, qu'elle avait l'impression que ça sautait des générations. Et on a une réaction par rapport à cela. C'est celle de Maggie qui nous dit qu'elle a toujours eu l'impression qu'elle transmettait à ses enfants des valeurs telles que la solidarité, comme le disait Carla dans son message. Pourtant, je me rends compte que s'ils ne sont pas très solidaires dans leur expression quotidienne, dans leur vie quotidienne, ils ont par contre reçu de moi l'amour du beau, l'amour du bien et surtout l'amour de l'autre. Ils ne s'expriment pas dans leur solidarité comme moi je le voudrais, mais ils ont cette forme quand même ancrée en eux. Je pense donc que parfois la transmission ne prend pas les allures que l'on voudrait y voir, mais qu'elles sont bien présentes. Voilà, qui devrait rassurer Carla.
Magnifique, non? Oui.
Ouais, on l'espère, en tout cas. Comme l'a exprimé Céline Alvarez, une des intervenantes de Transmettre, l'exemple donné par les parents vaut plus que plein de mots ou de conseils. C'est à l'image de l'éducation donnée par Elios et Caroline, nous dit Catherine dans son message. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à faire de la planification successorielle matérielle sans voir que pour que cela se passe sereinement sur le plan matériel, il est utile d'avoir fait de la planification successorielle immatérielle, nous dit Jean-Axel.
Oui, certainement. Et puis, ce n'est pas notre domaine d'expertise, mais on peut se dire que là-dedans, tout ce qui se joue, il y a énormément d'émotions. Et donc, il y a cette planification. Il y a, si on parle ici, j'imagine, du décès de quelqu'un et de ce qui va se passer après, c'est juste.
Oui.
Il y a toutes les émotions qui sont là mélangées. Il y a tout ce qu'on a reçu, qu'on n'a pas reçu, les difficultés, les non-dits qui vont s'entrechoquer et qui vont rendre parfois des choses qui pourraient être simples, très, très compliquées. Mmh. Et donc, transmettre, c'est peut-être ça aussi, c'est prendre conscience de tout ce qui se joue et parfois faire un peu la paix avec la guerre qui peut être à l'intérieur. Et en partant d'une paix intérieure, peut-être que la situation extérieure sera aussi davantage en paix, sans tomber dans l'idéalisme évidemment.
Non.
Les frictions sont normales.
Puis on a dit parfois on laisse en héritage à nos enfants des choses plus douloureuses aussi qu'on ne le voudrait, ou pour lesquelles nous ne sommes pas forcément conscients, et que cette douleur c'est aussi une forme de transmission qui va se transformer dans le temps,
oui,
dans le cœur de nos enfants.
Oui, c'est ce que disait très bellement l'auditrice, hein, elle expliquait vraiment très très bien, je pense que c'est ça, c'est si on, en même temps qu'on reçoit ces douleurs et ces difficultés, on a peut-être le moyen de les transformer,
oui.
Et puis ça sera peut-être pas comme nous on voudrait, comme nous on l'aurait voulu, mais il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui se passe.
Et enfin Anne-Marie, Gabriel Ringlet que je viens de voir en conférence, c'est vrai qu'il aurait pu, hein, Gabriel,
oui,
Ringlet.
Il est venu cette année à Journée Émergente.
Ah, il sera peut-être dans un prochain. Gabriel Ringlet que je viens de voir en conférence à Virton a eu cette très belle phrase, je ne suis pas certaine des termes exacts, nous précise Anne-Marie, il faut laisser à l'héritier le rôle de revisiter son héritage, il faut pouvoir lâcher prise et le laisser inventer le devenir de cet héritage.
Qu'est-ce que c'est? Je me dis, à quoi ça fait résonner cette belle phrase de Gabriel Ringlet? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans une fois qu'une chose a été donnée, elle a été donnée, et de laisser peut-être de l'espace aussi à l'autre pour se le réapproprier.
Oui.
Alors, bien sûr, et donc pour le transformer, pour le digérer, pour en faire quelque chose à sa manière. Et donc, c'est vrai que ça demande peut-être une forme alors de laisser aller, de laisser être pour celui qui transmet.
Oui.
Et aussi une forme de pouvoir recevoir à celui qui reçoit. Et je pense de nouveau, ce double mouvement de donner et recevoir est au cœur de la transmission. Et recevoir, parfois, n'est pas toujours aisé. Je ne parle pas même pas de recevoir des choses difficiles, c'est même recevoir des choses simples. Pour certains parmi nous, moi je me rends compte personnellement que dans des choses très très banales de la vie, en allant donner des conférences, très régulièrement, la personne qui m'accueillait venait me dire « Tiens, est-ce que je peux prendre un de tes sacs ?» Et je m'entendais répondre très très régulièrement « Non, ça va. » Et en réalité, sans me rendre compte que ce que la personne me disait, ce n'est pas... Elle voyait bien que je pouvais porter mes sacs. C'est qu'elle voulait m'offrir quelque chose. Et moi, en disant non, eh bien, je ne recevais pas, je ne me permettais pas de recevoir le cadeau, mais je ne permettais pas non plus à la personne de donner. Et donc, apprendre à recevoir, quelque part, c'est aussi donner, peut-être.
Nous, on voit ça. Je reprends. On va aussi transmettre, parce qu'on vous offre un exemplaire de ce transmettre, co-écrit par Céline Alvarez, Christophe André, Catherine Guéguen, Ilios Kotsou, Frédéric Lenoir, Caroline Le Cire, Frédéric Lopez, Mathieu Ricard, chez l'Iconoclaste, hein, sans reprendre mon souffle.
Bravo.
Vous désirez un exemplaire, il y en a un à gagner. Vous nous envoyez un message par SMS au 6031 avec vos noms, prénoms et adresses complètes. Nom, prénom et adresse complète, sinon on ne saura pas où vous l'envoyez. Et vous nous mettez le code transmettre. Voilà, c'est long à taper, mais vous devriez pouvoir y arriver normalement. Transmettre donc au 60-31, 75 centimes le message. Merci à tous les deux.
Avec plaisir.
C'est la fin.
Mais oui.
Mais ça me rappelle une citation de Christiane Singer. Et Christiane Singer, une très belle personne, disait que la transmission, c'est cette attention portée à l'autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même.
Tendance première.